Radio Prague, les informations.
Les deux ressortissants tchèques emprisonnés en Grèce vont être libérés sous caution. Plan gouvernemental anticorruption pour réformer les partis et les institutions étatiques. Et puis le Parti civique démocrate soutient officiellement la candidature de Karel Schwarzenberg. Les deux ressortissants tchèques emprisonnés en Grèce vont être libérés sous caution. Martin Peslar et Ivan Buchta ont été arrêtés par la police grecque en septembre dernier, qui les soupçonne d'espionnage. Les autorités grecques leur reprochent d'avoir photographié des établissements militaires de l'île de Lemnos. Les deux hommes sont employés de la société Bohemia Interactive qui produit des jeux vidéo. Les photographies auraient été liées à la création d'un jeu. Suite à leur remise en liberté, les deux ressortissants tchèques pourront retourner en République tchèque, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Suite à leur arrestation, les deux Tchèques risquaient des peines allant de 5 à 20 ans de prison. Le cœur du problème de la corruption en République tchèque serait lié à la structuration des partis politiques et des institutions étatiques, notamment dans le cadre d'appels d'offres et d'attributions de marchés publics. C'est ce qui ressort du document relatif à la politique gouvernementale en matière de corruption pour 2013 et 2014 que présentait ce mardi la vice-première ministre Karolina Pík et que s'est procurée l'agence de presse ČTK. Le texte souligne que les pertes liées à la corruption se chiffrent en dizaines de milliards de couronnes, à la fois directement du fait de l'argent détourné et indirectement du fait de l'incitation négative aux investissements étrangers. Lutter contre ce fléau qui en République tchèque prend la forme du crime organisé, serait donc de l'ordre de la responsabilité budgétaire. Le parti civique démocrate ODSA déclarait officiellement soutenir la candidature de Karel Schwarzenberg, président du parti de la coalition Top 09, au second tour de l'élection présidentielle qui doit se dérouler la semaine prochaine. Le candidat de l'ODS, Przemysław Sobotka, est arrivé avant-dernier au premier tour de l'élection. Sur les 9 candidats en lice, celui-ci avait déjà fait savoir qu'il soutiendrait le ministre des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg, qui est opposé à l'ancien premier ministre social-démocrate Miloš Zeman. À noter à ce sujet que l'équipe de campagne de Miloš Zeman entend accorder plus d'attention à gagner les voix des électeurs grâce aux réseaux sociaux, une des raisons du succès de son adversaire Karel Schwarzenberg aux dépens de Jan Fischer au premier tour serait justement une campagne réussie sur Internet. Un porte-parole de Miloš Zeman a fait savoir au site novinky.cz que l'équipe de campagne souhaitait montrer aux jeunes un Schwarzenberg différent. Et puis, une soirée de concerts gratuits en soutien de Karel Schwarzenberg se déroulera le 20 janvier sous le titre « Dimanche soir avec Karel ». Les différents événements se dérouleront à Prague et 6 autres villes de République tchèque. Divers artistes connus s'y produiront. Le candidat Karel Schwarzenberg était apparu sur la scène d'un concert à Prague quelques jours avant le premier tour, concert qui affichait quelques grands noms du showbiz tchèque. Petra Kvitova s'est qualifiée pour le second tour de l'Open d'Australie, premier tournoi de l'année comptant pour le Grand Chelem. La Tchèque, vainqueur à Wimbledon en 2011, est venue à bout de l'ancienne championne de Roland-Garros en 2010, l'Italienne Francesca Schiavone en 3-7, 6-4, 2-6, 6-2. Ses compatriotes Lucie Šafářová et Lukáš Rostol ont également remporté leur match et poursuivent la compétition à la star des 5 Tchèques déjà qualifiés lundi. Et puis un petit mot de foot, le milieu de terrain tchèque David Jarolím, 33 ans, qui avait quitté en novembre, le club d'Evian Thonon a signé mardi un contrat d'une saison avec Mladá Boleslav en première division tchèque, a annoncé le club tchèque de football. On termine par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Ctirad en République tchèque. Le ciel sera couvert avec de possibles chutes de neige localisées. Les températures oscilleront entre moins 3 et 1 degré pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Pierre Ménian.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité. Merci à Anna Kubishta pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce mardi, il y aura un ancien premier ministre social-démocrate et ancien commissaire européen, Vladimir Špidla, auteur d'un ouvrage sur l'avenir de l'Europe et qui a répondu aux questions de Lucie Drechselova. En deuxième partie d'émission, un autre entretien et un retour sur le premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue ce week-end avec le politologue Michel Perotino. Au micro d'Anne-Claire Veluire, il revient sur les enseignements à tirer d'un scrutin qui a vu Miloš Zeman et Karel Schwarzenberg sortir en tête. Mais on commence tout d'abord avec l'inauguration d'un nouveau gazoduc qui doit assurer la sécurité énergétique de la République tchèque. Bonne écoute à tous et à toutes. « Le gazoduc Gazella a été mis en service lundi à l'occasion d'une cérémonie réunissant le premier ministre Petr Nečas et des officiels venus de Russie et d'Allemagne dans le village de Przimda en Bohême de l'Ouest. La nouvelle infrastructure relie le pipeline russe Nord Stream au réseau européen et doit permettre de sécuriser l'approvisionnement du vieux continent en gaz naturel et en réduire les coûts en évitant le territoire ukrainien et les aléas liés aux contentieux commerciaux entre l'Ukraine et la Russie. C'est tout sourire que Petr Nečas et Tomáš Klefus, le représentant de Net for Gas, la société qui a financé les travaux, ont activé la vanne d'ouverture du tout nouveau gazoduc Gazella dans une petite bourgade de l'ouest de la République tchèque. Long de 166 km, ce nouveau pipeline a coûté 10 milliards de couronnes, soit environ 400 millions d'euros. Un investissement qui doit être amorti sous 10 ans alors que la durée de vie de l'infrastructure approche la centaine d'années. Surtout, ce gazoduc qui relie l'ouest de l'Europe au réseau russe Nord Stream, lequel fait transiter le gaz via la mer Baltique, doit renforcer la sécurité énergétique de la République tchèque et de l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement Petr Nečas en conférence de presse.
Je voudrais souligner que grâce à toutes les localités où le gazoduc Gazella est connecté au réseau existant, nous sommes en mesure de diversifier notre approvisionnement en gaz en République tchèque et d'accentuer fortement la sécurité énergétique de notre pays.
Le gazoduc Gazella permet en effet d'éviter les deux tracés actuels qui traversent la Biélorussie et l'Ukraine, deux pays dont les contentieux commerciaux avec la Russie sont source d'incertitudes quant à l'approvisionnement européen en gaz. Aussi, les transits à travers le territoire ukrainien ont diminué ces dernières années et pourraient même être stoppés. Le ministre adjoint à l'énergie russe s'est félicité de cette nouvelle construction.
На этом рынке, который включает в себя и Южную Германию, и Чехию.
Sur ce marché, c'est-à-dire dans le sud de l'Allemagne et la République tchèque, il est désormais possible de fournir 32 milliards de mètres cubes de gaz chaque année, ce qui signifie incontestablement un renforcement de la sécurité énergétique.
Cela représente environ 3 fois la demande annuelle tchèque en gaz. Il n'en reste pas moins que la République tchèque est toujours dépendante du gaz russe, qui représente environ 75% de sa fourniture totale. Spécialiste dans le domaine de l'énergie, Milan Kaitman considère toutefois que la Russie n'a pas intérêt à trop profiter de sa position dominante.
Évidemment, on ne peut jamais se protéger ou éviter un tel scénario puisqu'il n'y a qu'un fournisseur de gaz russe et c'est Gazprom. La seule question qui se pose, c'est le chemin emprunté par ce gaz vers l'Europe centrale. Mais je ne pense pas que la Russie ait un intérêt à couper cet approvisionnement. Gazprom a aussi des engagements à l'égard de banques qu'il ne peut pas satisfaire s'il décide de ne pas vendre son gaz.
Stabilním a dobře fungujícím trhu nemůže si nechat ujít.
Depuis les années 1990, la République tchèque a tout de même commencé à importer du gaz en provenance des pays nordiques. À l'avenir, l'ouverture de nouveaux gazoducs vers le sud de l'Europe devrait permettre à la République tchèque de diversifier un peu plus son approvisionnement. Vladimír Špidla, ancien premier ministre tchèque et ancien commissaire européen à l'emploi, aux affaires sociales et à l'égalité des chances, a publié récemment son livre intitulé « Vers une union sociale européenne ». Dans celui-ci, Vladimír Špidla expose notamment ses vues sur l'avenir du projet européen. Pour lui, les avancées dans le domaine social sont clairement liées à l'approfondissement de l'intégration européenne. Et c'est la coopération entre les États membres de l'Union qui permettra la sauvegarde du modèle social européen. Lucie Drexelova.
Lors d'un séminaire autour de son nouveau livre, Vladimír Špidla explique pourquoi les électeurs tchèques ne suivent pas toujours les préférences de leur parti politique quant au soutien à l'Union européenne. Ceux qui votent pour l'ODS, parti eurosceptique de droite, actuellement au gouvernement, sont majoritairement favorables à l'intégration européenne. Inversement, le soutien au projet européen par le CSSD, le parti social-démocrate, n'est pas forcément suivi par ses électeurs. Vladimír Špidla.
Oui, naturellement, parce que vous pouvez regarder ODS, qui est le parti qui représente typiquement des gens qui sont plutôt riches, multi-entrepreneurs. Ils sont tout à fait préparés, toujours chercher des possibilités pour eux, l'Europe, l'espace pour expansion. C'est clair. Les gens qui sont typiquement clientèle des sociodémocrates, ce sont des gens moyens, des gens habituels, des gens qui travaillent, qui sont employés. Et pour eux, naturellement, l'Europe est un peu éloignée, incompréhensible, et ils ont peur.
Spidla remarque qu'il incombe aux partis politiques de combler cet écart entre idéologie et électorat. Pour la social-démocratie, il s'agirait d'expliquer aux électeurs que l'Union est un garant du modèle social européen. Mais comment expliquer les racines de l'euroscepticisme tchèque? Vladimír Špidla le fait par un retour dans l'histoire. Outre la domination des superpuissances et des pays voisins, il se réfère à l'isolement spécifiquement tchèque suite au printemps de Prague.
L'autre problème est que nous sommes dans les dernières 40 années très très isolés. Nous étions très très isolés. Naturellement, il y avait rideau de fer, c'est tout à fait clair. Mais après le printemps de Prague, il y avait encore un nouveau rideau. C'était rideau mental. Et après le printemps de Prague, nous étions par le rideau de fer isolé de l'Ouest et par le rideau mental isolé de l'Est.
Par sa vision de l'avenir du projet européen, Vladimír Špidla se positionne comme une voie alternative au discours eurosceptique dominant l'espace public tchèque. Ainsi, il fait partie des voix toujours rares en République tchèque favorables à l'intégration européenne.
C'est une production dans l'espèce mortelle, avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de fautes, c'est tout à fait clair. Mais en général, c'est toujours la meilleure innovation politique dans l'histoire de l'humanité.
Le livre de Vladimír Špidla, écrit sous forme de dialogue avec Marek Hrubec, directeur du Centre des études globales à l'Académie des sciences à Prague, est paru en 2012 chez Sloan.
Quelques jours après le premier tour des élections présidentielles au suffrage universel direct, c'est le politologue Michel Perotino qui analyse les résultats. Il est au micro d'Anne-Claire Veluire.
Panorama.
Panorama.
Michel Perotino, le premier tour des élections présidentielles au suffrage universel en République tchèque ont eu lieu la fin de semaine passée, avec finalement une surprise, puisque au deuxième tour, les deux candidats restants sont Miloš Zeman et Karel Schwarzenberg. Alors on parle de surprise, vraiment une surprise ce résultat?
C'est très certainement une surprise par rapport au sondage qui donnait vainqueur Miloš Zeman d'un côté et Fischer de l'autre. Néanmoins, les tendances se sont inversées la dernière semaine avant l'élection et les résultats ont confirmé cette montée de Schwarzenberg dans les derniers jours précédant l'élection.
Est-ce que c'est Jan Fischer qui a perdu ou Karel Schwarzenberg qui a gagné? Comment s'est faite la différence? Est-ce que c'est la faute de Jan Fischer ou est-ce que c'est lui qui a commis des erreurs ou est-ce que c'est vraiment la campagne de Karel Schwarzenberg qui lui a permis d'avoir ce bon résultat cette dernière semaine?
En fait, il y a sans doute un petit peu des deux. C'est-à-dire que, premièrement, Fischer a commencé sa campagne très tôt. Il a très tôt été présenté comme le candidat, le meilleur candidat en fait potentiel. Et vraisemblablement, en fait, sa campagne s'est essoufflée sur les dernières semaines, derniers jours. A fortiori, vraisemblablement, donc il y a eu un effet de fatigue de la part des électeurs, et a fortiori également, il n'a pas été toujours à la hauteur de ce qu'on attendait de lui dans les débats télévisés notamment. Inversement, ou de l'autre côté, Schwarzenberg a fait une très bonne campagne. Comme on dit un petit peu partout maintenant, ses communicants ont très bien communiqué. Et notamment dans les grandes villes, notamment auprès des jeunes, Karel Schwarzenberg, peut-être paradoxalement, a réussi à remonter la pente. Dernier point peut-être aussi, ce qui a sans doute aussi beaucoup, beaucoup apporté à Schwarzenberg, c'est l'absence ou le défaut du candidat ODS, Sobotka, qui n'était pas à la hauteur en fait du scrutin.
Alors en parlant du vote des jeunes, on attendait un score relativement important du candidat Vladimir Frantz, qui a été finalement beaucoup plus faible que ce qui était prévu. Qu'est-ce qui s'est passé pour Vladimir Frantz ?
En fait, Vladimir Frantz, dès le début, il a été présenté plutôt comme un candidat canular. Donc de ce point de vue-là, sans doute, il a attiré la sympathie de beaucoup de gens, notamment pour ses soutiens. Il a pu, notamment de ce point de vue-là, être ressenti comme le candidat de la jeunesse. On n'a pas encore vraiment suffisamment de données concernant les votes pour pouvoir dire qu'il y a eu un échec de Frantz sur ce point-là. Quand j'ai dit tout à l'heure que Schwarzenberg avait réussi, sa campagne notamment, qu'il avait réussi à obtenir le soutien des jeunes, c'est une partie de la jeunesse qui a apporté son soutien à Schwarzenberg. C'est notamment une partie de cette jeunesse qui est très friande de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, si on peut faire la publicité, et qui ont été sensibles à une certaine image du candidat Schwarzenberg.
Un des objectifs de cette première élection présidentielle au suffrage universel direct était de remobiliser un peu les électeurs dans une démocratie qu'on qualifie parfois un peu d'essoufflée, où les électeurs tchèques ne vont plus voter. Est-ce que c'est un pari réussi de ce point de vue-là ?
Alors, je crois que les raisons réelles pour lesquelles les partis, puis ensuite les députés, les sénateurs tchèques ont avalisé l'élection directe du chef de l'État. Les raisons sont plus complexes, parfois beaucoup plus conjoncturelles. Si néanmoins on prend cette idée donc d'essayer de revitaliser un petit peu la démocratie, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes que l'on aurait pu avoir. Effectivement, avec un peu plus de 60% de participation pour une élection directe, pour la première élection directe, ce n'est pas un résultat extraordinaire.
Le deuxième tour de cette élection se tiendra dans une dizaine de jours, un peu plus d'une dizaine de jours maintenant. Beaucoup donnent Milos Zeman gagnant, pourtant ce n'est pas forcément le cas. Comment va un peu s'organiser ce report des voix ? Est-ce qu'on peut calculer déjà le report de voix de certains candidats sur d'autres ? Et Jerzy Dinsmuir, par exemple, a dit qu'il ne voterait pas lui-même Milos Zeman. Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions de candidats ? Est-ce que ces candidats vont être suivis par leur électorat ? Enfin voilà, toutes ces questions.
La plupart des candidats de la droite établie ou du centre droit, on va dire, notamment par exemple le candidat de l'ODS, Sobotka, a immédiatement appelé à voter Schwarzenberg. C'est le cas également de Mme Rutova, du Parti démocrate chrétien, qui a appelé aussi immédiatement à voter pour Schwarzenberg au deuxième tour. Le report des voix, il est aujourd'hui relativement difficile de savoir ou de prévoir si l'électorat va d'une part aller voter, c'est-à-dire si effectivement il n'y aura pas cette tendance à accroître l'abstention, et deuxièmement, la structure en fait de l'électorat des candidats qui nous restent, principalement de Fischer, partiellement celui de France également. Cette structure de l'électorat tend à indiquer qu'il risque d'être compliqué de prévoir ce report des voix vers Schwarzenberg ou très éventuellement vers Milos Zeman. Premièrement, par exemple, pour l'électorat de France, beaucoup de commentateurs ont soulevé le fait que c'est un électorat qui de toute façon ne serait pas dévoté. Donc il y a de fortes chances ici pour que cet électorat de France, quelle que soit l'indication que donne France, n'aille pas voter au deuxième tour. L'électorat de Fischer est un électorat relativement compliqué ou complexe parce qu'on y retrouve en fait tous les anciens électorats de parti. C'est-à-dire que tous les électorats sont représentés dans cet électorat de Fischer ou dans cette candidature de Fischer. Ce qui implique que c'est un électorat relativement plus difficile à contrôler, un électorat plus difficile à amener à voter pour l'un ou pour l'autre. Par ailleurs, se pose encore aujourd'hui la question de la décision de Fischer. Est-ce qu'il va inviter ses électeurs à reporter leur voix vers tel ou tel candidat ? Fischer était plutôt déçu, très déçu, voire dégoûté de ce résultat, plus que de la campagne d'ailleurs. Donc sinon, au niveau de l'électorat de Schwarzenberg, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve déjà en fait ce gros bataillon de votants ou d'électeurs, Top 09 d'un côté et ODS de l'autre. Donc en fait, Schwarzenberg a déjà fait beaucoup la pêche en fait à son électorat de droite ou de centre-droite, un électorat conservateur, ce qui explique en partie pourquoi Sobotka s'est effondré. Pour Zeman, l'électorat Zeman et l'électorat de Nisbir est relativement proche, c'est-à-dire qu'on retrouve le même type d'électorat, c'est-à-dire d'anciens électeurs de la social-démocratie, d'anciens électeurs du Parti communiste. Donc il est possible qu'il y ait effectivement un report plus clair ici au profit de Miloš Zeman. Ceci étant dit, Miloš Zeman est une personne qui est très critiquée, rejetée, y compris à gauche. Et cette personnalité risque de lui porter préjudice également.
On voit une forte disparité dans l'électorat des deux candidats qui accèdent au deuxième tour, une disparité géographique entre Karel Schwarzenberg, qui est élu beaucoup dans les villes, dans les agglomérations, hein, qui a un électorat, disons, plus urbain, et Miloš Zeman, qui a un électorat plus en Moravie et plus rural. Qu'est-ce qui explique ce phénomène et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence donc, dans ce deuxième tour des élections?
Je vais reprendre le problème à l'envers. En dépit de ce que dit notamment Karel Schwarzenberg, à savoir qu'il refuse le combat droite-gauche, on retrouve dans ces résultats des tendances longues ou lourdes de la vie politique tchèque. Faire une carte comme ça sur le résultat des deux premiers, ça marche. Effectivement, on a ce clivage entre un pays plutôt rural, plutôt morave, qui va voter pour Zeman, je dirais même plutôt rural, plutôt morave, plutôt dans les couches de la société plus faibles économiquement, pour Zeman. Pour Schwarzenberg, on y retrouve les classiques du vote plus conservateur, enfin plus, disons, à droite, donc avec un électorat plus urbain, un électorat plus éduqué, par exemple, un électorat également plus économiquement plus élevé. Donc en soi, c'est pas spécialement une particularité ou quelque chose qui est lié à ces deux candidats, mais à leur électorat, qui sont des électorats déjà très marqués politiquement. Oui, chacun représente une République tchèque, chacun représente une tendance idéologique différente, même si, par exemple, Denis Bier a rejeté l'idée que Zeman est à gauche. On peut discuter là-dessus, mais fondamentalement, il y a quand même ce clivage, ces clivages qui se recoupent, qui nous permettent de dire que l'un est plutôt à droite, l'autre est plutôt à gauche, très clairement. Juste un dernier point qui m'a aussi assez marqué, c'est le positionnement de Václav Klaus sur la question. Václav Klaus a déjà dit que ces élections étaient la plus grande défaite de la droite tchèque depuis 1989, ce qui contredit ce que je viens de dire, à savoir que je dis que Schwarzenberg est clairement à droite. Klaus dit non, il n'est pas à droite, il est ailleurs. Sous-entendu, j'imagine, il est à gauche. Il y a vraisemblablement déjà un positionnement de Klaus pour le futur. Il se positionne déjà comme le futur sauveur d'une certaine partie de l'échiquier politique tchèque.
Dans 5 ans.
Dans 5 ans. C'est pas de la pure théorie. Il est un peu plus jeune que Schwarzenberg. C'est tout à fait envisageable. Et le résultat, si on devait être un petit peu paradoxal ou un petit peu jusqu'à ironique, s'il y a un vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle tchèque, c'est plutôt Klaus.
Il s'agissait du politologue Michel Perotino au micro d'Anne-Claire Veluire. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt.